Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver, très heureuse de retrouver toute l'équipe de C'est à vous qui est à mes côtés jusqu'à 20h50 en direct. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir ma belle.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Ce qui s'appelle mettre ses menaces à exécution, l'hôpital de Corbeil-Essonne a refusé de payer la rançon aux hackers. Et bien les hackers ont commencé à diffuser des milliers de données personnelles sur Internet.
Avec quelles conséquences, quels conseils donner à ces patients dont les données de santé sont désormais livrées à l'espace public? On en parle avec le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, Mehdi Zeghouf, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Après des accusations de violence psychologique contre son ex-compagne, Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, a décidé de démissionner. Son avocate contre-attaque cet après-midi. Vous saurez tout ce soir dans cette heure.
Patrick, votre édito.
L'extrême droite au pouvoir en Italie. Je vais revenir sur la victoire de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia. Quel est son programme? Est-ce qu'on peut la qualifier de fasciste ou de post-fasciste?
Voilà, une victoire saluée par Marine Le Pen et le Rassemblement National. On en parle avec Sébastien Chenu, député RN du Nord, porte-parole du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu, dans le 5 sur 5.
On va voyager, Babette. Je vous emmène à 11 millions de kilomètres de la Terre. Un module spatial va dévier... Oui, il faut se dépêcher, oui. Va dévier un astéroïde, ça bouge à Saint-Arnaud en plus. Va dévier un astéroïde de sa trajectoire. Est-ce que ça va marcher? C'est la nuit prochaine, je vous explique tout ça.
Voilà, est-ce qu'on reste les pieds sur terre dans votre œil, Pierre?
Pas tout à fait, mais quand même. Sidney Poitier, l'acteur et le citoyen américain, une manière décisive d'imposer le respect. Un documentaire raconte sa vie, je vous le présente tout à l'heure.
Nos invités du dîner, deux allumés, c'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes. Catherine Fro, Michel Faux sont au théâtre avec une pièce d'André Roussin. Lorsque l'enfant paraisse, c'est au théâtre de la Michaudière. Ils dînent avec nous ce soir. Sofiane Zermani aussi sera avec nous au dîner. Il cartonne sur Netflix avec un téléfilm qui s'appelle Sous emprise. Il incarne un champion du monde d'apnée très toxique. Un dîner préparé ce soir par Louis Amen, qui est aux côtés de Bertrand Chameroy en cuisine. Salut à tous les deux.
Salut, bonsoir à tous. Je suis effectivement avec Louis Amen du restaurant Momen, boulevard Haussmann à Paris. Et à la demande de Patrick Gelose, en ce lundi, que nous amène Louis?
Ce soir, on vous prépare un tentacule de poulpe laqué avec un jus de betterave, un houmous à la betterave et quelques pickles pour... agrémenter le tout.
Merci voilà. Chef, bonne émission.
Voilà, et on voit en gros plan les tentacules en ce moment même. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Question sur les élections législatives italiennes qui vont faire de Giorgia Meloni la prochaine chef de gouvernement. Pourquoi elle et son parti sont-ils qualifiés, surtout en France et en Allemagne, de post-fascistes? Qu'est-ce que ça veut dire?
Pas grand-chose. Si on regarde le discours et le programme d'aujourd'hui qui n'ont rien de fasciste, sa réforme la plus autoritaire ou du moins critiquée comme étant une dérive autoritaire, c'est l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Comme en France.
Exactement, mais il n'est pas sûr du tout qu'elle dispose d'une majorité des deux tiers dans les deux chambres pour accomplir ce qui serait une révolution dans cette Italie parlementariste rétive à toute idée de guide ou de leader suprême depuis la mort de Mussolini. Donc post-fasciste, c'est politiquement trompeur, mais... historiquement juste, parce que Giorgia Meloni a été fasciste, qu'elle a longtemps dit et pensé du bien de Mussolini, qu'elle a repris comme emblème lors de la fondation de son parti la flamme fasciste que son prédécesseur Gianfranco Fini avait abandonné une dizaine d'années plus tôt, et que le RN a d'ailleurs gardé, que ce parti compte des militants ou des personnalités qui se revendiquent comme fascistes, qui se disent nostalgiques de Mussolini, et que Meloni elle-même n'a pris ses distances et arrondi son discours que ces toutes dernières années.
Et dans son programme?
Là, c'est à la fois très à droite et très classique. Baisse des impôts pour les familles, les entreprises et les travailleurs indépendants, suppression du revenu minimum universel, plan de soutien à la natalité, défense et promotion des racines historiques et culturelles judéo-chrétiennes de l'Europe, mais c'est surtout contre l'immigration irrégulière qu'elle a fait campagne.
Elle a promis un blocus maritime.
Oui, on a beaucoup parlé, on a beaucoup retenu cette idée de blocus. En réalité, ça n'a rien d'un coup de force. Voici précisément le mode d'emploi qu'elle a détaillé il y a quelques jours à la télévision.
Chiediamo all'Europa una missione europea, cioè di andare insieme a trattare con i paesi del Nord Africa, segnatamente con la Libia. Insieme alla Libia, quindi io non considero il blocco navale un atto di guerra, come ci ripetono tutti i giorni. Insieme alla Libia, fermare le partenze dei barconi, perché io non voglio continuare a dare i soldi agli schiavisti del terzo millennio. Si stanno arricchendo gli scafisti grazie a queste solidarissime politiche della sinistra. Sono la mafia del terzo millennio.
Un accord avec la Libye sous l'égide de l'Union européenne pour stopper les migrants en mer, ou pour les stopper avec la Libye, vous avez entendu, elle le répète à deux reprises, eh ben c'est exactement ce qui est mis en place depuis 5 ans. Il y a eu un accord signé en 2017 entre l'Italie et la Libye. Il fonctionne plus ou moins bien, mais en tout cas...
Il existe.
Ce mode d'emploi-là, il est déjà en application. Bon, on attend de voir la suite.
Est-ce que l'Italie s'est droitisée hier, lors de ce vote ?
À nuancer. Parce que la coalition de droite totalise 47% des voix, ce qui est moins que du temps de Berlusconi, où ce total a dépassé plus de 50%. Hier, les partis de centre-gauche, les centristes et le mouvement 5 étoiles ont obtenu en tout plus de voix que la droite, mais ils sont pénalisés par une loi électorale qui favorise les grandes alliances. En revanche, il est vrai que la droite dite modérée a quasiment disparu en Italie. Elle est réduite, si vous voulez, à Berlusconi. Et au sein du bloc de la droite, le parti de Giorgia Meloni se taille la part du lion. 26% des voix contre 4% lors des dernières élections il y a 4 ans. Dans l'intervalle, il est le seul parti à être resté dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédés, à n'avoir jamais mis les mains dans le cambouis, à n'avoir jamais été aux affaires, si vous préférez. Dans le même temps, la Ligue de Matteo Salvini, le parti dont vous êtes le plus proche au Rassemblement national, paie au prix fort sa participation aux affaires, moins de 9% des voix, un score divisé par 2 en 4 ans, preuve que personne n'est épargné par le dégagisme.
C'est la leçon que vous tirez de cette élection ?
Non, moi je tire plusieurs leçons. D'abord, je pense que c'est un vote pour les Italiens, probablement d'espoir, et c'est un recours. Recours, vous l'avez dit, Meloni n'est jamais allée au gouvernement, n'a jamais gouverné.
Contrairement à
et donc, elle est perçue comme un recours face à des politiques qui sont, en matière d'immigration, au pouvoir d'achat, vécues très difficilement par les Italiens. Je rappelle que le pouvoir d'achat a baissé 10% pour les Italiens en quelques années.
Il y a 9% donc, d'inflation aujourd'hui.
Oui, c'est un pays qui vit difficilement. Les choses. C'est aussi, je crois, une leçon donnée à Ursula von der Leyen, qui a tenté de faire pression, de dire si vous ne votez pas correctement, vous les Italiens, on va vous sanctionner. Vous savez, à chaque fois, ça donne le résultat inverse.
Pas exactement ce qu'elle a dit.
Oui, enfin, c'est quand même une espèce de petit chantage démocratique.
Elle a dit qu'il y avait des règles en Europe et qu'il fallait les respecter.
C'est une ingérence, en tous les cas, dans cette élection qui est une mauvaise aloi. Et je pense que ça donne de toute façon toujours le résultat inverse. Quand Ursula von der Leyen se met à parler, elle est devenue une sorte de tract pour Meloni pendant toute cette campagne. Après, le débat fasciste ou pas fasciste, moi, je crois qu'il est totalement dépassé.
Dépassé
Oui, il est totalement dépassé, parce qu'en fait, vous voilà. Avez commencé par le dire. Bon, d'abord,
elle
ne souvent...
renie pas son passé, elle ne cache pas son admiration pour le leader fasciste. Ça,
c'était jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon, elle est née en 77, Meloni.
C'était bien après.
C'était ça. Ce que je veux dire, c'est que ce débat, il est surtout fait, en fait, pour essayer de décrédibiliser ceux qui sont tenants d'une ligne patriote. En fait, il y a des gens qui disent dans ce pays, qui sont souvent ceux qui, d'ailleurs, ont défendu Mao, Staline, etc., qui disent, oulala, ce sont des post-fascistes, des crypto-fascistes, des néo-fascistes, que sais-je. Ils sont en France amis de Marine Le Pen, donc Marine Le Pen est une crypto-néo-post-fasciste, etc. On connaît le cinéma, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ce genre de procès ad nominem ne fonctionne pas. C'est, moi, je crois... D'ailleurs, en Italie, Meloni, elle est présentée... Hier, j'ai regardé, moi, les résultats. C'était coalition de centre-droit. oui, la télévision italienne.
Non, mais, ça, c'est, oui, non, c'est leur appellation italienne. C'est leur appellation à eux.
Oui, non, mais d'accord,
ils
mais
se,
c'est
ils se présente comme ça, le centre droit.
Non, mais c'est comme ça c'est que la télévision italienne dans la, a relayé, dans la italienne a relayé les choses.
C'est, donc, sur les alliances, c'est ça qui est intéressant. Parce que vous revendiquez, Marine Le Pen en a parlé, les succès en Suède puis en Italie. Dans les deux cas, ce sont des alliances de droite.
Ce ne sont pas les alliés du Rassemblement national.
De droite et d'extrême droite.
Vous l'avez dit, Meloni, ce n'est pas notre allié. Nous, notre allié au Parlement européen, c'est la Ligue de Matteo Salvini, qui fait partie de cette coalition.
Qui s'est complètement écroulé, recul.
Oui, qui a reculé, qui est ressorti essoré de son passage au gouvernement. Ça, c'est une réalité. Mais nous, notre allié au Parlement européen, c'est Salvini. Giorgia Meloni, c'est, j'allais dire, une droite conservatrice. Elle est probablement plus conservatrice que nous, par exemple, le Rassemblement national. Elle est peut-être un peu plus libérale économiquement aussi,
c'est
probablement,
que nous. Qui a réussi la danse des droites. Ça ressemble ça plutôt à ça. Réfléchir.
Mais nous, on n'est pas favorable à l'alliance des droites. D'abord parce qu'on considère, et avec nous, je pense, Emmanuel Macron, qui a théorisé quelque part la même chose, que droite et gauche, c'est dépassé et c'est dépassable. Et surtout, nous, on veut l'union des patriotes. Et les patriotes, ils peuvent venir de gauche. Ils peuvent venir d'autres mouvements. Ils peuvent venir de gens qui ne croient plus en les partis politiques, mais qui croient encore à la nation. Et je pense que c'est ça qui nous fait ressembler. On a des points de convergence avec eux. Puis vous savez, la société italienne, attention, elle est probablement un peu différente de la société française. Elle est plus conservatrice. Son histoire n'est pas la même. Le mode de scrutin, vous l'avez rappelé, n'est pas le même non plus. Donc comparaison n'est pas raison, mais ils envoient un signal, c'est ce signal que nous saluons, qui est celui du triomphe d'une coalition qui défend la nation.
Giorgia Meloni, elle a aussi convaincu sur ses positions atlantistes, à l'opposé des vôtres. Elle est favorable aux sanctions contre Vladimir Poutine.
Nous aussi, on est pour les sanctions. On n'est pas pour les sanctions qui empêchent les Français, mais on est pour des sanctions.
Elles font plus de mal aux Français qu'aux Russes.
Non,
ça
n'est quelles sanctions
pas du tout ce que dit Giorgia Meloni.
Non, attention, nous, très clair, on est favorable à des sanctions qui touchent Vladimir Poutine. Le problème, c'est que les sanctions actuellement ne sont pas particulièrement intelligentes parce que pour l'instant, elles ne touchent pas Vladimir Poutine, mais elles impactent fortement le pouvoir d'achat des Français.
C'est une distinction que vous ne faites que depuis 15 jours, hein, pardon.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Regardez l'élection présidentielle, débat à l'élection présidentielle, et Marine Le Pen l'avait bien dit. Pourquoi ? Parce que dans le passé, on a déjà essayé d'avoir des sanctions contre la Russie qui n'ont pas fonctionné et qui avaient juste abîmé notre outil agricole et qui avaient renforcé l'outil agricole russe. Donc ces sanctions-là, elles ne fonctionnent pas. Il en faut d'autres. Moi, je vous dis, il faut être implacable vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mais le problème, c'est que tout ça, ça se terminera comment ? Il n'y a que deux solutions. Ou ce sont des négociations diplomatiques, et il faut le souhaiter, ou alors ce sont, alors on est en route vers une guerre.
Je
pense qu'il y avait des choses à faire, et je pense qu'on peut toujours les faire, mais encore une fois, nous on a choisi aussi de ne pas parasiter l'action de la France et du président de la République. Par exemple, mettre autour de la table les pays producteurs de gaz pour faire écrouler les marchés du gaz, eh bien je pense que c'était une voie vers laquelle il fallait aller, vers laquelle il faut continuer d'aller. Ce n'est pas ce qui est aujourd'hui choisi par le président de la République. Je pense que la France, elle peut encore jouer un rôle, parce que de toute façon, on négocie la paix future avec qui ? Avec ses ennemis d'aujourd'hui, avec ses adversaires d'aujourd'hui. On ne la négocie pas avec ses amis. Donc il faudra bien un moment continuer à parler à la Russie. Il se trouve qu'à la tête de la Russie, c'est toujours Poutine. Et le président de la République, là-dessus, a raison de parler à Poutine, parce que c'est bien lui qu'il va falloir amener à la table des négociations, ainsi que Zelensky.
Quelques 45 milliards seront consacrés au maintien d'un bouclier tarifaire puisqu'on parle de la crise énergétique censée continuer à contenir à 15% la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Vous proposez toujours de baisser la TVA à 5,5. Mais comment compenser le manque à gagner pour les finances publiques ?
C'est 45 milliards. En fait, c'est une subvention qui est faite par les Français à ceux qui font des marges de spéculation. Si vous voulez, ce n'est pas une politique. Moi, je vois bien, j'ai regardé comment était structuré le budget à travers la présentation qu'on a fait Gabriel Attal aujourd'hui. Mais ce n'est pas une politique du pouvoir d'achat, ce n'est pas une politique de protection du pouvoir d'achat des Français. Nous, on propose des solutions qui, d'ailleurs, sont faites ailleurs. L'Allemagne, j'ai vu, a baissé sa TVA sur les énergies à 7%. Nous, on propose qu'elle soit baissée à 5,5%. Ça coûte à peu près 12 milliards. Donc, vous voyez, là, on est sur 45 milliards avec le bouclier fiscal que payent les Français. Parce que ces 45 milliards d'euros, ils sortent de la poche des Français. Donc, les Français, en fait, subventionnent eux-mêmes.
Ce n'est pas 45, donc, c'est 16, puisqu'il y a...
Non, le bouclier fiscal, c'est 45 milliards.
Le bouclier tarifaire, il y a 29 milliards qui sont payés par les énergéticiens.
Le bouclier tarifaire, il est de 45 milliards.
Net,
dans le budget, je vous invite à lire l'excellent journal Le Monde, aujourd'hui, qui donne effectivement cette description du budget. Donc, nous, on propose ça, mais on propose aussi de sortir du marché européen de l'électricité. On propose une taxation sur les super profits, pas sur les profits. C'est normal qu'une boîte fasse des profits, des super profits.
Mais uniquement pour les secteurs de l'énergie ?
Non, non. Également, par exemple, pour des secteurs, par exemple, comme de transport, par exemple, CMA-CGM, qui ont fait des super profits, je crois 10 milliards. Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils contribuent à cet effort qui permettrait des recettes supplémentaires. Parce que là encore, dans le budget de la France, il faut savoir, il y a à peu près 500 milliards, c'est un budget de 1000 milliards la France, il y a 500 milliards de dépenses, mais il y a 350 milliards de recettes. Donc on a un déficit de 150 milliards. Mais si vous voulez, quand je vois que le ministre des Finances annonce 2 milliards pour créer des abris pour des demandeurs d'asile, etc., je pense que les priorités ne sont pas les bonnes. Je pense que les Français, ils attendraient que ces 2 milliards qui sont consacrés à créer des structures d'accueil pour des demandeurs d'asile, eh bien, ils soient dirigés plutôt vers leur vie quotidienne et vers leurs difficultés.
Sur le plan énergétique et avant cet hiver qu'on nous annonce difficile et peut-être périlleux pour notre approvisionnement en électricité, qui à vos yeux est responsable de la situation actuelle ?
Mais je pense qu'on a un gouvernement qui a été... pas celui uniquement d'Emmanuel Macron d'ailleurs, les gouvernements qui suivent cette même logique néolibérale depuis 30 ans. Mais par exemple, François Hollande a une lourde responsabilité dans la fermeture de Fessenheim, dans le fait d'avoir une vision extrêmement brouillée, pour ne pas dire mieux, de l'outil nucléaire, de la politique nucléaire que mène la France. Parce qu'à un moment, il fallait séduire les Verts, alors on a arrêté de miser sur le nucléaire. Résultat, on a des EPR qui ne fonctionnent pas.
C'est exactement la position du Front National à l'époque aussi.
Non, mais écoutez...
Je ne sais pas,
au Front National...
Au moment où vous reprochez à François Hollande d'avoir pris des mauvaises décisions, mais à ce moment-là, le Front National était parfaitement aligné, puisque Marine Le Pen, on va le voir dans cette archive, il y a 10 ans...
J'espère que vous allez au bout de la phrase.
Réclamer. Écoutez, c'est moi qui ai fait l'interview à l'époque.
Alors on va voir.
Donc je m'en souviens parfaitement.
Ouais, on va voir.
Marine Le Pen réclamait la sortie du nucléaire. Regardez.
Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse, nous le disons depuis très longtemps, puisqu'un des premiers colloques du Front National en 1979 était justement sur les dangers du nucléaire. Mais il est incontestable que cette sortie qui serait positive, qui limiterait les dangers pour le monde, ne peut se faire que progressivement et doit passer évidemment par un investissement massif dans la recherche concernant les nouvelles énergies.
C'était la même position que...
Et donc, cet extrait, je le connais, puisqu'on nous le sort à chaque fois. Que dit Marine Le Pen ? Le nucléaire... Mais elle dit d'autres choses dans cette interview. Elle dit aussi que le nucléaire, c'est propre, que le nucléaire, c'est efficace.
Elle dit que c'est une
énergie qui comporte des dangers. Mais ne pas le regarder en face, ce serait ne pas voir une vérité. Et donc aujourd'hui, on est armé pour contrer ces dangers du nucléaire. Elle dit qu'il faut développer l'hydrogène. D'ailleurs, il y a quoi dans le budget demain pour le développement de l'hydrogène ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le budget de l'hydrogène ? Pas grand-chose.
Elle prône la sortie du nucléaire. Elle le dit à deux reprises dans cette interview.
Monsieur, nous défendons une politique nucléaire dans notre pays. Nous défendons cette politique nucléaire. Mais nous, je ne vous parle pas de ce qui a été fait il y a 20 ou 30 ans, je vous parle de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui.
Vous parliez de ce que François Hollande a fait ou n'a pas fait il y a 10 ans.
Les erreurs qu'il a commencé à faire. Et Emmanuel Macron a poursuivi et aggravé ces erreurs. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est une politique de pompier pyromane. Si vous voulez, quand on est brouillon à ce point, quand on continue à faire... Parce qu'en fait, Macron, il aurait très bien pu dire les engagements de François Hollande, je n'y tiens pas parce que j'ai une vision du nucléaire, celui qui est à la tête de l'État, qui m'amène à protéger les Français. Il ne l'a pas fait.
De la même façon, vous pourriez dire ce soir, notre formation a changé d'avis sur le nucléaire.
Non, parce que nous y avons toujours été favorables, quand bien même nous considérons qu'une énergie, elle peut porter des dangers. Mais aujourd'hui, on maîtrise bien le nucléaire, je crois, dans notre pays. Beaucoup mieux d'ailleurs qu'au moment où Marine Le Pen s'exprimait d'ailleurs dans cette interview qui est assez ancienne.
2011. C'était il y a 10 ans, précisément. À la date à laquelle François Hollande avait annoncé la fermeture de Fessenheim, enfin un peu avant.
Un an avant.
C'est cette semaine que le gouvernement va faire connaître sa méthode pour réformer les retraites, parce qu'on c'est sûr, même si on ne connaît pas exactement les détails, cette réforme aura lieu. Et il était largement temps, c'est ce que pense l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui ce week-end était l'invité des universités du Modem dans le Morbihan.
La première fois que j'ai entendu parler de la question des retraites, j'étais en seconde. C'était mon professeur d'économie qui était au tableau. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'informatique. Il était au tableau, il nous a fait des courbes, et nous a dit, vous voyez, système de retraite, un jour, il va y avoir un problème, parce que de plus en plus, c'est la démographie, tac, tac, tac. Nous sommes un pays où depuis, autant que je m'en souvienne, 35 ans, où nous savons qu'il y a un problème, où nous essayons de le régler, où parfois nous apportons des pierres dans l'édifice, et d'une certaine façon, tant mieux, mais où ce problème est devenu constitutif de la crise de nerfs nationale, de notre incapacité à appuyer nos décisions sur des chiffres et avoir un débat rationnel. Un sujet dont je me permets d'observer qu'il a toujours été réglé dans tous les pays comparables de la même façon.
Est-ce qu'il n'est pas temps de trancher une bonne fois pour toutes, comme le réclame Édouard Philippe ?
Non, mais nous, on n'est pas en accord avec le diagnostic qui est fait, avec la méthode. Mais la méthode, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne sont pas en accord les uns avec les autres, si j'entends François Bayrou.
Le diagnostic, c'est que vous dites que non, le régime de retraite n'est pas déficitaire.
Je vois deux choses. Vous voyez, il y a deux éléments aujourd'hui qui sont très clairs, qui viennent de sortir. Le comité d'orientation des retraites qui nous dit on a renoué avec les excédents. Ça pourra se redégrader dans quelques années, mais là, on a renoué avec les excédents. Et grosso modo, il faut prévoir un budget de 9 milliards par an pour ce régime des retraites. De l'autre côté, nous avons une très juste analyse du Trésor qui est sortie, qui dit attention, si on repousse la retraite, l'âge du départ à la retraite à 64 ans, alors on va faire augmenter les dépenses sociales et d'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que 50% des gens qui arrivent à la retraite à cet âge-là, qui arrivera à la retraite à 64 ans, eh bien, sont souvent ou au chômage, ou au RSA, ou malades, ou invalides, et que par conséquent, plus vous repoussez aussi le départ de l'âge de la retraite, bah plus vous faites monter les dépenses d'assurance maladie et de chômage. Donc par conséquent, cette petite solution que nous sort Édouard Philippe en disant il va falloir repousser, elle a aussi d'autres répercussions. Ne pas le dire, c'est ne pas dire toute la vérité aux Français. Nous, on a un schéma, on est capable de l'assumer, c'est départ à 60 ans avec 40 annuités.
Mmh. Et à partir et avec ça,
de
le 17 système
à 20
des retraites
ans.
Ne sera
ensuite,
jamais déficitaire.
On peut aller de façon progressive jusqu'à 62 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la part de ce qu'on veut consacrer aux retraites par an dans notre produit intérieur brut. Les projections nous disent, en fait, on est capable de consacrer dans notre pays entre 11 et 13 milliards par an à l'horizon 2070. Aujourd'hui, on en consacre presque 15%. Donc ça veut dire que ce système, il est tenable. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut de la croissance, ça veut dire qu'il faut revoir les politiques d'égalité salariale, ça veut dire qu'il faut faire entrer un maximum de gens sur le marché du travail, donc de la formation. Je veux dire, il y a des choses à faire, bien entendu, mais cette logique, elle fonctionne, elle peut être pérenne, et aujourd'hui, elle est financée. Mmh.
Le Rassemblement national presse ses sympathisants d'adhérer avant ce soir minuit.
C'est vrai, n'oubliez pas, Pierre.
Avec la promesse de pouvoir voter pour l'élection du président du parti, ils pourront voter dès vendredi et jusqu'au 3 novembre pour la présidence. Deux candidats sont en lice, Jordan Bardella et Louis Alliot. Qui a votre préférence ?
Mais moi, pour deux raisons, je n'ai pas choisi. La première, en fait, pas par prudence, parce qu'en fait, je voulais dire pour qui j'allais voter, mais je vous expliquais pourquoi. Ah. La première, bon, c'est vrai que j'ai de la sympathie pour les deux, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais la deuxième, comme je viens d'intégrer la commission de contrôle des opérations électorales, j'ai une espèce de devoir de réserve qui va m'amener à ne pas dire pour qui je vais voter à titre personnel. J'ai parrainé aucun des deux, mais je les accueille tous les deux volontiers dans les réunions. Bon. C'est des personnalités différentes, c'est des histoires différentes. Ah, je pense que l'élection n'est jamais faite jusqu'à la fin. Mais moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on nous a fait le reproche pendant des années de dire au RN, tout est verrouillé, c'est toujours une candidate. Elle est candidate, elle est seule, c'est sûr, elle avance. Bon, là, il y a une élection, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Quand il y a une élection, il faut qu'il y ait des gens qui se présentent.
C'est un corps électoral de combien de personnes
Je n'ai pas regardé encore, puisque les adhésions sont jusqu'à ce soir. Donc, à mon avis, on est sur 30 000, on est sur 30 000 adhérents, peut-être 40 000. Vous savez, c'est à peu près ce que font les partis politiques. Oui, vous avez vu combien. Vous avez vu les partis politiques en France ne suscitent pas beaucoup de vocations, mais vous avez vu combien il y a eu de votants pour Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. C'était très faible par rapport au nombre annoncé. Donc on sait bien que les partis politiques ne sont pas des outils qui sont beaucoup utilisés par les Français.
Ils sont très différents, Jordan Bardella et Louis Alliot ?
Ils ont des vraies différences de parcours, probablement de méthode. Et en fait, moi, je pense qu'ils ont des qualités complémentaires. Et celle qui réunit le mieux ces qualités, c'est Marine Le Pen. Donc ils sont chacun un peu un bout de Marine Le Pen.
Vous restez avec nous, on continue à vous soumettre des sujets d'actualité. C'est notamment l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Julien Bayou, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, a donc démissionné ce matin de son poste de secrétaire national et de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Un groupe qui n'a donc plus de secrétaire national depuis ce matin.
Oui, c'est ça. Depuis ce matin, Europe Écologie n'a plus de secrétaire national. À 7h02, le communiqué tombe. Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, annonce sa démission avec ces mots. « Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs, accusatrices, disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles et dont je ne peux pour autant me défendre puisqu'on me refuse de m'entendre. C'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux. » Son avocate Marie Dosé s'est exprimée pour la première fois cet après-midi. Elle a récapitulé les faits dans cette affaire.
Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021. Et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne. Le 30 juin 2022, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule de signalement d'Europe Écologie Les Verts, un mail qualifiant son ancien compagnon de manipulateur lâche, je la cite, hein, et évoquant son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux. « Inquiète-toi, je vais revenir et en force. » Et nous tenons à ce stade à rappeler et à préciser qu'à aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles, physiques ou du harcèlement.
Cette affaire remonte en fait au mois de juillet dernier, quand la commission interne de EELV sur les violences et harcèlements sexuels est saisie par l'ex-compagne de Julien Bayou. Celui-ci en étant informé, il demande aussitôt à être auditionné par la dite commission. Le 7 juillet dernier, il confirme par ailleurs l'existence de cette enquête interne au Figaro. Mais depuis, plus rien. Il ne s'est rien passé. Julien Bayou n'a jamais été entendu par personne dans cette affaire. Ce n'est que le lundi 19 septembre, sur ce plateau, que l'affaire a rebondi. Interrogée sur l'existence d'une enquête interne à EELV sur Julien Bayou, Sandrine Rousseau confirme et révèle publiquement que sa compagne a fait une tentative de suicide quelques temps après son témoignage.
Je l'ai reçue chez moi, une ex-compagne de Julien Bayou. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal.
Ces déclarations ont provoqué une déflagration chez Europe Écologie, car même si aucune plainte pénale n'a jamais été déposée et aucune enquête judiciaire ouverte à ce jour, tout le week-end, la pression sur Julien Bayou n'a cessé d'augmenter. Yannick Jadot estimait sur RTL ce dimanche qu'il serait de bonne intelligence que Julien Bayou se retire. Un constat partagé par plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, au micro de Louis Amar et d'Audrey Payas.
Là où on en était rendu, en termes de traitement médiatique, de traitement sur les réseaux sociaux, de la France entière qui se mêle de cette séparation, alors avait-il le choix? Je ne pense pas.
Il y a une telle accumulation donc de cas assez sordides, de personnes qui ont été protégées par l'institution et que maintenant donc il y a des révélations par rapport à ça, qu'à un moment il faut dire que malheureusement je paye pour les autres, mais je dois prendre du recul parce que sinon je ne suis pas entendu et ça c'est triste, mais on est obligé de passer aujourd'hui par ces phases de recul.
Les camarades de parti de Julien Bayou estiment que la démission était nécessaire, pendant qu'ailleurs, des voix comme celle de François Bayrou, Éric Ciotti ou encore de Marion Maréchal-Le Pen s'inquiètent plutôt de la dangerosité de la justice médiatique. Sébastien Chenu, quelle est votre position ?
C'est un vrai sujet. D'abord, la première chose à dire, c'est que les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, dans notre société, c'est une problématique à prendre au sérieux. Il ne faut pas détourner le regard. Et pendant des années, on a globalement probablement détourné le regard. Et puis les faits nous sautent au visage. Il y a eu plus de 20%, je crois, de violences conjugales l'année dernière. Donc on ne met pas ça de côté. On ne dit pas que ça ne compte pas. C'est un vrai problème. Le silence se brise et tant mieux. Il faut que les paroles puissent se libérer. On a vu une extrême gauche mal à l'aise parce que forcément, quand vous passez votre vie à donner des leçons et à dire aux uns et aux autres, vous devez rendre des comptes, vous devez démissionner, etc., quand ça vous tombe dessus et que la première sortie, c'est Jean-Luc Mélenchon qui trouve des circonstances atténuantes.
Vous parlez d'Adrien Quatennens. Mais
je vais venir à Sandrine Rousseau parce que je pense que c'est très insidieux. J'entends un truc qui me gêne terriblement. Je paye pour les autres. Enfin, il y a un type qui dit Julien Bayou va payer pour les autres. Non. D'abord, je pense que ce n'est pas aux partis politiques de devenir une sorte de justice privée. Il y a une justice dans notre pays. On peut considérer qu'elle a passé de moyens et elle en a passé dans ce domaine-là. On peut considérer qu'elle va pas assez vite et c'est probablement vrai. Mais enfin, les partis n'ont pas vocation ni à rendre de la justice, ni à étouffer, ni à orienter, etc. Quand vous êtes saisi, De toute façon, quand vous êtes parlementaire, c'est un droit. Quand vous êtes saisi d'un problème comme celui-ci, je serais curieux de savoir si Sandrine Rousseau l'a fait, vous devez dénoncer, ça s'appelle comme ça, au titre de l'article 40, signaler exactement cette problématique qui doit être traitée. Et ensuite, la machine judiciaire se met en branle et le parti politique peut prendre les décisions qu'il veut concernant les responsabilités qu'il donne à tel ou un tel pour qu'il puisse aussi se défendre, parce qu'il ne faut pas oublier la présomption d'innocence dans tout ça. On n'est pas dans une société construite sur la présomption de culpabilité. Mais là, il y a un piège qui se referme, qui est incroyable. Et c'est là où Sandrine Rousseau, quelque part, instrumentalise tout ça, et je trouve ça absolument ignoble. Elle a créé, avec la naïveté des types de la France insoumise, etc., un piège incroyable. La première chose, c'est culpabilité des mecs, tout le temps, 100%, on érige pendant des mois, des années, le fait qu'un homme est un coupable, est un violeur possible, et que de toute façon, il faut l'avoir à l'œil. Deuxième chose, on se transforme en conseillère conjugale complètement bidon, on recueille des témoignages, qu'on livre ensuite, qu'on balance dans les médias avec la personne qui, évidemment, est broyée par le procès médiatique, alors que ça devrait suivre un chemin judiciaire quand il s'agit de quelque chose qui est un délit. Tout ça pourquoi ? Mais parce que Sandrine Rousseau l'a bien compris, après avoir flingué Julien Bayou, après avoir fait rentrer dans ce piège d'Emmanuel Bompard, des types qui ne savent plus s'en sortir, elle aura comme dernière victime Jean-Luc Mélenchon, le mâle de plus de 50 ans, pour pouvoir elle-même porter les couleurs de l'extrême-gauche. La réalité, c'est que Sandrine Rousseau, elle mène sur ces sujets-là un combat politicien qui
elle
déshonore...
Elle n'a aucune conviction.
Non,
elle est juste...
non. Non, c'est juste,
juste
de la manipulation médiatique, alors que c'est un sujet éminemment sérieux, un sujet sur lequel il faut prendre des dispositions. Il faut, vous savez que le budget sur les violences conjugales, j'ai regardé, il est extrêmement, son augmentation est extrêmement faible cette année par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'on ne prend pas encore la mesure de
donc
tout
si
ça.
Vous les places d'hébergement. Si vous dénoncez des agissements de ce genre au sein du Rassemblement
moi, je vous dire,
national, on dira que c'est parce que
homme,
vous avez des ambitions personnelles.
Un homme qui tabasse sa femme, c'est la lie de l'humanité, si vous voulez ce que je pense. Donc c'est sûr qu'il vient. Je pense que si un jour il y avait quelqu'un qui devait se confier, il ne viendra pas vers moi parce que vu ce que j'en pense, évidemment, c'est directement chez le procureur. Mais par la voie de la justice. Je fais confiance à la justice de mon pays. Il faut qu'elle soit plus rapide, il faut qu'elle ait plus de moyens sur ces sujets-là, mais pas à travers ces petites manipulations politicardes que fait Sandrine Rousseau et qui déshonore sa parole dans le domaine.
Bon, finalement, c'est le procès de Sandrine Rousseau alors qu'on est en train de faire ce
soir. Oui, parce qu'elle utilise un sujet sérieux pour faire avancer ses pions. Je trouve ça lamentable.
Vous restez avec nous. D'autres sujets à vous soumettre, Sébastien Chenu, et notamment l'hôpital de Corbeil-Essonne qui avait jusqu'au 23 septembre, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, pour payer 10 millions de dollars à ces hackers pirates sous peine de mettre leurs menaces à exécution.
Et quelles menaces ? Diffuser, livrer en pâture sur Internet les données personnelles de tous ceux qui auraient pu être en lien avec cet hôpital ces dernières années, ça fait du monde. 1,5 million de personnes qui pourraient voir donc leurs coordonnées, leur numéro de sécurité sociale, leurs examens médicaux, leur bilan de santé, leur radio divulguée. Alors forcément, ça inquiète.
Ça nous inquiète, oui, forcément, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces données et c'est des choses très personnelles.
J'aimerais pas que les gens sachent si j'ai une maladie grave ou pas grave. On a le droit de faire transférer les dossiers par un médecin chez un autre médecin, mais que tout le monde sache ma vie, ça me dérangerait quand même un peu.
Je vois pas quelle utilisation on peut faire de ça, mais c'est forcément pas des bonnes choses.
Alors cela fait plus d'un mois que l'hôpital redoutait ce jour. Fin août, l'établissement se retrouve avec tous ses écrans noirs. Il vient d'être cyberattaqué et se voit contraint de déclencher son plan blanc, de refuser les urgences, de ressortir les papiers, les crayons pour suivre les dossiers des patients déjà présents.
Nous n'avons plus accès à nos bases de données de patients, les numéros de téléphone. On ne peut plus avoir, on ne sait plus qui était suivi.
Il faut réécrire chaque jour les médicaments des patients, toutes les prescriptions de sortie. Les infirmières, au lieu de saisir sur informatique toutes les données des patients, doivent à nouveau remplir des pancartes, etc.
La vie de malade est en jeu, mais ça, les hackers s'en moquent. Au contraire, c'est même pour cela qu'ils ciblent un hôpital. C'est pour cela aussi qu'ils exigent une telle somme, 10 millions de dollars. Quelques jours plus tard, ils vont abaisser cette somme à 2 millions de dollars, ce à quoi le ministre de la Santé, François Braun, ému, avait répondu fermement.
La santé des Français ne doit pas et ne sera pas prise en otage. C'est essentiel, c'est totalement inadmissible, je le dis avec un peu d'émotion dans la voix. Mais ce qui vient de se passer ici, touchant des services de réanimation néonatale, est inacceptable.
Bonsoir Mehdi Zeghouf.
Bonjour Alexandre Chabon.
Présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne. Je crois que c'est à peu près 10% de votre espace de stockage qui a été piraté. Mais vous ne pouvez quand même pas savoir combien de personnes sont concernées, quelles données exactes ont été volées. Donc c'est à l'ensemble des usagers de votre hôpital que vous êtes obligé d'écrire pour les mettre en garde. C'est à peu près 1 million de personnes qui sont potentiellement concernés?
Absolument, oui. D'après les premiers éléments de l'enquête, on estime qu'on a à peu près 10% de notre espace de stockage qui aurait été crypté et du coup piraté et récupéré par ces pirates informatiques. Donc c'est difficile puisque c'est du quanti et pas du quali, donc de savoir exactement ce qui a été piraté, ce qui est en leur possession, tant que ce n'est pas diffusé en ligne, on ne peut pas exactement savoir ce qui est en leur possession. Raison pour laquelle on ne peut pas forcément identifier chaque personne qui serait potentiellement ciblée. Et raison pour laquelle, avec ce qui a été mis en place par la CNIL, on est obligé d'écrire à chaque patient qui s'est présenté à l'hôpital depuis 10 ans. Donc plus d'un million de personnes.
En leur donnant quels conseils ?
Alors déjà, c'est de les informer, parce que, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est de diffuser l'information pour être vigilant, et c'est le principe de nos recommandations. On va écrire de manière individuelle à chaque personne, parce que le risque principal, il est lié, mais finalement on le subit déjà chaque année, à potentiellement du hameçonnage, du phishing, c'est de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations personnelles pour essayer d'arnaquer les gens ensuite derrière, donc c'est une vigilance dans les prochains mois.
Arnaquer comment ? C'est-à-dire, parce qu'en gros, quand on possède votre numéro de sécurité sociale ou des comptes rendus d'examen, que peuvent en faire les hackers ? Quelle valeur ces informations ont-elles ?
C'est pour ça que je voudrais rassurer les gens, Anne-Elisabeth Lemoine, c'est que le risque principal en la matière, ce serait de l'usurpation d'identité. Néanmoins, pour avoir de l'usurpation d'identité, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments. Nom, prénom, date de naissance, etc. On estime que ce qui a été piraté ne permet pas d'avoir accès à suffisamment d'informations pour mettre en place une usurpation d'identité. Parce que le dossier personnel des soignants est préservé. Il est stocké sur un serveur à part, donc il n'a pas été piraté. Ce sont plutôt des données annexes, c'est-à-dire par exemple des échanges de mails entre services, entre médecins, donc sur lequel il pourrait y avoir un numéro de sécurité sociale par-ci, un numéro de téléphone par-là, une identité. Donc c'est plutôt ces informations parcellaires, mais qui ne permettent pas forcément mise bout à bout, et ils ne sont pas en mesure de le mettre bout à bout, parce qu'encore une fois, c'est une masse de données très importante, de pouvoir avoir des risques majeurs, on va dire, en termes de sécurité.
Il n'était pas question de payer les 10 millions de dollars de rançon ?
Alors non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'en ai ni les moyens ni la possibilité. On n'est pas aux États-Unis. Ici, l'hôpital public fonctionne sous tutelle de l'Agence régionale de santé, du ministère de la Santé. Quand bien même j'avais les moyens et envie, je n'ai pas de compte en bitcoin, donc je n'ai pas la possibilité d'aller verser 10 millions de dollars à je ne sais qui en ligne. Et par ailleurs, ce n'est pas dans la procédure nationale en la matière.
Ça veut dire que les pirates, n'ayant toujours pas eu gain de cause, ils vont continuer à faire fuiter ces informations ?
Malheureusement, nous ne le savons pas. Nous savons, nous, que le paramétrage de l'attaque est autour de 10% de nos données. Ils ont diffusé, je crois, un peu plus de 10 gigas de données. On peut estimer qu'ils ont un certain nombre d'autres informations en leur possession. Moi, je pense, d'après les premiers éléments de l'enquête, que c'était une volonté pour eux d'être crédibles par rapport à leur menace, donc de mettre à exécution le chantage, de divulguer une partie de l'information pour essayer éventuellement de se faire rémunérer ou en tout cas d'essayer de vendre le reste des données à de potentiels pirates qui essaieraient de nous arnaquer. Mais comme on le vit déjà tout au long de l'année, avec les mails de mise à jour de la carte de sécurité sociale ou les SMS qu'on reçoit beaucoup en ce moment, par exemple, votre colis a été livré, merci de cliquer ici pour le recevoir. Donc ça, en fait, on y est déjà habitué. Donc c'est surtout des messages de vigilance. Et on continuera d'accompagner les patients tout au long de ces mois, en lien avec la CNIL, en lien avec nos avocats, si jamais c'était des risques plus graves qui venaient à arriver suite à cette attaque. Mais en tout cas, nous avons fait des études par rapport aux autres attaques qui ont pu avoir lieu dans les autres hôpitaux. Ça se limite à des tentatives de phishing et de hameçonnage. Généralement, ça ne va pas beaucoup plus loin.
Les risques, en tout cas, ils sont maintenant à l'hôpital aussi, puisque depuis le 21 août dernier, vous êtes en mode dégradé. Les urgences fonctionnent à mi-régime. Vous avez dû enclencher le plan blanc. Vous demandez d'ailleurs aux personnes d'éviter les urgences spontanément, si elles le peuvent, de ne pas venir.
Oui, nous sommes aujourd'hui en phase stabilisée du mode dégradé, c'est-à-dire qu'on n'est effectivement plus au niveau du début de l'attaque, donc on a appris à fonctionner avec ce mode dégradé. Et je voudrais saluer évidemment la solidarité des soignants qui n'avaient pas besoin de ça en plus au cœur de l'été, mais qui font face dans une très grande solidarité.
Ça veut dire vous êtes retourné au papier, stylo
On est retourné au papier, au stylo. Aujourd'hui, petit à petit, on revient quand même, on arrive à remettre en service nos systèmes d'information, petit à petit, les logiciels. Parce que vous savez que dans un hôpital comme le nôtre, vous l'avez dit, c'est 1000 lits, c'est 3700 collaborateurs, c'est un vrai paquebot, on n'imagine pas le nombre de logiciels qu'il faut pour faire tourner un hôpital comme celui-là. Donc petit à petit, en créant une bulle sécurisée dans laquelle nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de compromission, d'attaque, nous remettons dans cette bulle sécurisée petit à petit les logiciels. Donc nous les rouvrons petit à petit. Et cette étape, cette seconde étape de stabilisation va nous emmener jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et s'ouvrira ensuite une troisième étape où là, nous fonctionnerons à 80% de nos capacités. Nous serons venus à
80%. Seulement quand même. Donc 100%, ce sera quand ?
Dans un an, il va nous falloir, nous estimons qu'il va nous falloir, et nous avons des précédents en la matière, toute l'année 2023 pour rebâtir entièrement notre architecture informatique. Et nous sommes en cela aidés beaucoup par le ministère de la Santé. Mais nous étions déjà engagés dans un plan
de modernisation. Ça va coûter très cher à l'hôpital public ?
Ça va coûter cher à l'hôpital public. J'ai écrit au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, notamment pour faire face aux premiers coûts engendrés par cette attaque, sur, en tout cas à la fin de l'exercice 2022, que l'on chiffrait un peu plus de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros vont nous être versés cette semaine. Donc je remercie le ministère de la Santé. On estime que, par rapport au précédent, que ça va nous coûter à peu près 5 millions d'euros pour rebâtir l'ensemble de l'architecture informatique en 2023. Mais le plan que nous devions mettre en place en 7 ans, on va le mettre en place en un an.
Ouais, comment se protéger contre ces cyberattaques en refondant complètement le système informatique? Mais c'est votre cas à vous, ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux qui sont de plus en plus la cible de cyberattaques depuis la crise du Covid, particulièrement?
Oui, particulièrement depuis plusieurs mois. Alors, ces attaques ont commencé aux États-Unis, mais qui est dans un autre mode de financement de l'hôpital. En France, ça existe depuis maintenant un certain nombre de mois. Et il y a une prise de conscience de la part des autorités nationales, puisqu'un plan avait été déployé pour renforcer la sécurité informatique, notamment des hôpitaux publics. On était engagé dans ce plan-là. On était à la phase de diagnostic. On a été attaqué à ce moment-là. Oui, il faut mettre des moyens supplémentaires, mais il faut surtout changer de philosophie par rapport à la sécurité informatique de nos collectivités aussi, puisque beaucoup de mairies sont attaqués, il faut passer d'un système de défense en forteresse, c'est-à-dire où on sécurise, on bâtit des grands murs qui empêchent les pirates d'entrer, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, malheureusement, ils naviguent un peu comme ils veulent, et on l'a vu en l'espèce, à un autre système, à une autre philosophie, où en fait, il faudrait cloisonner et sécuriser l'intérieur même des données, de telle sorte que si, malheureusement, un pirate arrive à entrer, il n'ait pas accès à l'ensemble des données. Mmh. C'est toute la philosophie de ce que l'on est en train de mettre en place et que l'ensemble des hôpitaux vont mettre en place.
En quelques mots, Sébastien Chenu,
c'est les enjeux de demain,
hein,
les protections des données de vie privée, que ce soit à l'hôpital ou dans les autres administrations, la cybersécurité, ce sont les enjeux de demain. On n'y échappera pas, il va falloir être imaginatif, mettre des moyens. Je salue l'ensemble des agents qui se démènent visiblement dans cet hôpital pour faire face à cette attaque. Ce sont les enjeux de demain, il va falloir mettre un peu de moyens là aussi.
Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci Mehdi.
Merci à vous.
Zégou.
Bonsoir Babette.
Bonsoir Babette. Merci à tous. Bonsoir Mathieu. On démarre ce soir avec un sujet que l'on connaît de mieux en mieux. La sobriété énergétique.
N'est-ce pas, sobriété, c'est clairement le mot de la rentrée. Sobriété et exemplarité avec le plan de la ville de Paris qui se déploie, Babette, ce week-end. C'était autour du symbole le plus parlant de la ville lumière, la Tour Eiffel, dont les éclairages seront coupés plus tôt désormais, 23h45. On va y revenir. Mais d'abord, un effet très concret de cette extinction des feux sur le tourisme, avec les bateaux-mouches et autres péniches obligés d'adapter leurs horaires pour fermer plus tôt. Louis Amar et Audrey Payas sont allés interroger la compagnie des vedettes de Paris.
Nous avons donc décidé d'annuler notre dernier départ. Le dernier départ, c'était 23h, évidemment, avec le retour du bateau à minuit au pied de la Tour Eiffel. On ne voulait pas que les touristes sortent de notre bateau au pied de la Tour Eiffel et voient la Tour Eiffel éteinte. On va dire qu'on perd la valeur d'un bateau par soir. Maintenant, il nous reste une période de soirée à Paris entre 19 et 23. Il y a de quoi faire. Nous, on a un départ toutes les demi-heures, donc à partir de la tombée de la nuit, les gens adorent venir au coucher du soleil et voir Paris la nuit. On a encore cette marge pour faire venir les touristes et les enchanter avec les illuminations de Paris.
Et nous avons voulu vous raconter les premières extinctions des feux de la ville lumière. C'est un symbole. Alors vendredi, Louis Amar et Audrey Payas se sont rendus à l'hôtel de ville d'abord. Sauf que vendredi, il y avait un festival, le festival Lisbonne sur Seine, sur le parvis de la mairie. Vous voyez ces éclairages là, on n'est pas dans l'économie d'énergie. On s'était arrêté pour l'extinction des lumières. Pas grave, nos reporters sont vaillants et ils ont marché les 3 minutes qui séparent l'hôtel de ville de la Tour Saint-Jacques. Et oui, vous le voyez, à 22h précises, les lumières se sont éteintes. C'est léger, mais vérifiable à l'image. On continue, direction le Louvre, qui doit s'éteindre normalement à 23h désormais tous les soirs. Eh bien, en fait, non. Vous le voyez, le Louvre est resté allumé bien plus tard. Il y avait un tournage de film sous la pyramide. C'est raté. Alors, Louis Amar et Audrey Payas n'ont pas attendu l'extinction définitive du Louvre, non pas par découragement, mais parce qu'ils avaient rendez-vous avec la Dame de Fer. J'ai plus après de périphrase pour dire Tour Eiffel. Le clou de la soirée, l'extinction de la Tour Eiffel dès 23h45 pour faire des économies. Suspense. Ça a fonctionné. Vous voyez ces lumières qui s'éteignent à 23h45 précises. Sobriété oblige, c'est la règle désormais. Alors après ces échecs précédents au Louvre, à l'Hôtel de Ville, à l'approche de minuit, au pied de la Tour Eiffel, Louis Amar s'est offert le malin plaisir d'annoncer que la Tour Eiffel ne brillera plus ce soir-là.
Are you waiting for something?
Yes, for the light.
Have you noticed something has changed 5 minutes ago?
Yeah, it like the lights closed up early.
Vous attendez quelque chose, non?
Ouais, on attend les lumières.
et qu'elle brille comme à chaque fois.
Were you expecting the midnight show?
Yes.
Vous allez attendre longtemps.
Pourquoi?
Parce que maintenant la Tour Eiffel s'éteint tous les soirs à 23h45.
Non, pourquoi?
My girlfriend told me that from the today the Eiffel Tower will turn off from the 11:45 because of the save the electronics.
We are a little bit disappointed. I mean, we came here 4 years ago and we really enjoyed the night show.
On est très déçus.
Elle est déçue.
Pourquoi vous êtes déçue?
Parce que c'est mon anniversaire et je voulais qu'elle brille.
C'est triste un peu, mais quand même il faut penser à notre planète.
Will you come back tomorrow?
Probably.
Most likely.
Now that we missed it, we'll probably have to come early tomorrow.
Alors plus sérieusement, pour en revenir aux économies d'énergie, il y a un collectif qui s'est illustré ce week-end, des amateurs d'un sport qui s'appelle le parcours. Des acrobates urbains, pour définir le parcours écologiste, des membres du collectif On The Spot se sont filmés en train d'éteindre les lumières des magasins avec un style sans égal. Vous les voyez sauter, marcher sur des murs parfaitement verticaux, ils grimpent sur des façades pour atteindre les interrupteurs de ces devantures de magasins.
Moi, je savais pas qu'on pouvait les atteindre.
L'idée, c'est vraiment de pas dégrader, ça reste un mouvement bienveillant. Avoir autant d'enseignes allumées la nuit, c'est pour nous une aberration. Et pour nous, l'écologie, c'est ça aussi. C'est peut-être quelques actions citoyennes qui permettent de passer des paroles aux actes.
Oui, on ignorait qu'il y avait des interrupteurs à l'extérieur pour éteindre les lumières.
Ça rappelle le film Yamakasi, je crois, qui était produit par Besson très, très, très longtemps. On voit voilà, des gens sauter en ville comme ça. Là, c'est pour la bonne cause.
Des scènes de vives tensions et d'émeutes urbaines même. Les communautés indiennes et pakistanaises qui s'affrontent au cœur de l'Angleterre.
Je vais vous raconter une histoire, accrochez-vous. Il y a un peu d'histoire géo. Il est question de partition des Indes, de Commonwealth, de banlieue anglaise aussi. Mais tout commence aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. La Asian Cup de cricket, le match Pakistan-Inde le 28 août dernier. Pour faire simple, on ne parle pas seulement d'un classico du cricket, Babette, mais tout sport confondu, on parle de la plus grande rivalité sportive au monde. L'Inde a donc gagné ce sommet du cricket. Un match de cricket, ça dure plusieurs heures, c'est interminable. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. C'est là que nous partons à Leicester, un peu plus de 2h30 de route au nord de Londres. On est à mi-chemin entre Londres et Manchester. Leicester où cohabitent les deux communautés concernées, des Pakistanais musulmans et des Indiens hindous. À la fin du match, le 28 août, je le rappelle, à la fin du match, des supporters indiens se sont rassemblés à Leicester et seraient allés chanter des chants agressifs, voire insultants dans le quartier, précisément des Pakistanais. Et l'affrontement de supporters est devenu un affrontement communautaire.
We just wanted to make a stand that this is not fair on us, that you guys have been coming to our streets, breaking and smashing things. So we just organized a march to show the support for our community. We can't have this any longer.
Et ça a continué les jours suivants dans un quartier, puis dans l'autre. Là-bas, on a reproché à la police d'avoir tardé à intervenir.
I don't think we have been slow to respond to these incidents. We've got a dedicated investigation team wrapped across all of them. There's significant body-worn videos, CCTV, online imagery that we're working our way through.
En Inde, je fais une parenthèse de politique indienne, le pouvoir nationaliste accompagne et alimente depuis des années une forte hausse de l'islamophobie, ce qui vaut même à certains pays du Moyen-Orient de renoncer à des partenariats économiques avec le pays. Et donc, à Leicester, la politique indienne s'est invitée dans cette rivalité sportive qui dégénère.
An ideology that is being played out in the streets of Leicester that may be looked at a national scale, at international level. So we have seen in India at this moment in time the treatment of minorities, including Christians, including Dalits, and including Muslims, which is now being transferred to the streets of Leicester.
Je vous disais qu'on en revenait à la partition des Indes, à la fin de la colonisation anglaise, aux relations Inde-Pakistan. Quoi qu'il en soit, à Leicester, les appels au calme se multiplient. Des appels des deux communautés réunies, d'ailleurs, qu'on a pu voir. Appel au calme, donc, c'était sans compter ce week-end sur ce youtubeur musulman en Angleterre. Son nom est sorti comme celui d'un acteur de ces affrontements, Mohamed Hijab, qui est accusé de mettre de l'huile sur le feu.
I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters. Don't ever come out like that again. Do you understand?
No chance.
Are they going to come out like that again?
Never.
Are they going to come out like that again?
No.
Because if they do come out, are we going to be here? Yes or no?
Yes.
Affaire à suivre donc. Ça dure depuis le 28 août. Dans la ville de Leicester, au Royaume-Uni.
Une page de science à présent avec une mission inédite de la NASA.
Est-ce que vous reconnaissez cette musique?
Même pas, Babette.
Bah, moi, j'ai la réponse, c'est Aerosmith.
Aerosmith, la bande originale du film Armageddon, lorsqu'en 1998, le cinéma imaginait Bruce Willis déviant la trajectoire d'un astéroïde pour sauver la Terre. Eh bien, le cinéma est rattrapé par la réalité avec la mission DART, ce qui veut dire fléchette. En anglais, DART, pour la fléchette qui va venir piquer un caillou à 11 millions de kilomètres de nous, là-haut. À l'image, le décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX au mois de novembre, il y a près d'un an. C'est le temps qu'il a fallu pour arriver près, justement, de l'astéroïde Dimorphos. Pour la première fois, l'humanité va dévier la trajectoire d'un corps céleste, du moins essayer, ce sera la nuit prochaine. L'objectif n'est pas de piquer façon fléchette, donc, mais véritablement de se jeter, d'aller s'écraser contre l'astéroïde. DART, c'est une mission kamikaze, en réalité. Un vaisseau plus petit qu'une voiture qui va percuter cet astéroïde Dimorphos, fait environ 160 mètres de diamètre, et tourne autour d'un autre astéroïde beaucoup plus gros. L'objectif, au final, c'est de réduire son orbite en venant taper à 24 km par seconde.
If you ever saw the movie Armageddon or played Asteroids as a kid, this mission is for you. As part of NASA's larger planetary defense strategy, the DART mission will prove that a spacecraft can autonomously navigate to a target asteroid and intentionally collide with it. The DART mission is an awesome example of science fiction becoming reality.
Alors, on est très loin, Babette, de toute forme de danger, c'est expérimental. Encore une fois, on est à 11 millions de kilomètres de chez nous. Mais j'ai appris surtout qu'on ne connaît que 40% des astéroïdes qui seraient capables de détruire une région entière de notre planète. Alors on s'entraîne. Ça vaut le coup de faire quelques essais. Le résultat de cette mission ne nous parviendra qu'entre 2024 et 2026. Mais les images, elles seront là dès la nuit prochaine. On passe des images au son avec une autre info de la NASA qui vient de nous communiquer du son de la planète Mars. Là, c'est scientifique et poétique à la fois. Écoutez le son que fait une météorite qui tombe sur la planète rouge.
Il y a
une goutte.
Ça fait gloup.
Oui, voilà, ils s'attendaient. Mais très sérieusement, les ingénieurs de la NASA. Les ingénieurs de la NASA s'imaginaient un gros boom, une explosion, et non, ils ont été très surpris.
Alors, c'est amorti.
Mars, c'est encore beaucoup de mystère.
Bon, peut-être pas sur cette info scientifique, mais vous vouliez agir sur les économies d'énergie.
Oui, parce que ça me faisait penser à ce que disait Jean-Marc Jancovici, qui est quand même un ponte dans le domaine, qui dit « les petits gestes, ça amène de petites économies ». Donc on peut se faire plaisir, probablement, à éteindre plus tôt la tour Eiffel, etc. Moi, je crois que, ou à devenir comme Elisabeth Borne, une espèce de police de la température, vous avez le droit jusqu'à 19,
vous
à partir
pas,
de
vous,
15. Non, mais je ferai ce que ma conscience me dicte, mais j'ai pas besoin d'Elisabeth Borne pour savoir à quel niveau je dois mettre le chauffage chez moi, qu'elle se mêle probablement un peu plus de ce qui la regarde. Ça, je considère que c'est n'importe quoi. En revanche, les changements de paradigme, je pense, les changements de logique, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je veux dire, tant qu'on continuera à faire fabriquer des portables par des gamins du Bangladesh pour les vendre ici à des chômeurs, cette logique-là, elle créera évidemment l'empreinte carbone, et c'est cette logique-là qu'il faut inverser.
Voilà. Mais en attendant, ça fait partie des consignes et des conseils qu'on donne aux Français.
Baissons la température.
Sans injonction. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être venu ce soir, porte-parole du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mehdi Zeghouf, patron voilà, de l'hôpital de Corbeil-Essonne, parce que c'est un peu long sinon. Merci à tous les deux. Dans un instant, nos invités dîner, Michel Faux, Catherine Froh qui se donne la réplique au théâtre, Sofiane Zermani qui cartonne sur Netflix sous emprise, je crois, le numéro 1. Des films disponibles sur la plateforme dans le monde. Voilà. À tout de suite pour les dîners de C'est à vous. L'œil de Pierre également est à suivre. On vous attend.